création on air. Creation on air.
Bonsoir. Ils ont une vingtaine d'années et ont rejoint le département sonore d'une école d'art pour dessiner leur monde dans nos oreilles. Nous leur avons proposé en décembre 2015 de créer avec France Culture un projet sur le thème du flux. Ce soir, ils sont deux. L'une de l'École nationale supérieure d'art de Nice, la Villa Arson, l'autre du Studio national des arts contemporains, le Frénois. Pour Marie Limoujou, dont nous entendrons la proposition dans une demi-heure, le territoire du flux, c'est le Paris mutuel urbain. Elle a toujours fréquenté les bars PMU, qu'elle répertorie en relevant les bruits et les sons qui y circulent. Avec le bruit de la machine à Paris, les cris et les rires des joueurs, elle a souhaité nous proposer un flux PMU. Paul Heinz, lui, se réfère au cut-up de Burroughs pour opérer un mix réel-fiction, enregistré pour bonne part avec ses lecteurs qui, dans le monde souterrain du métro, affichent leur évasion. Jeu de hasard et de l'amour des textes de fiction, il va s'agir de fournir la preuve que d'autres personnes s'activent sous terre. Sound Factory 3, par Paul Heinz et Nathalie Battus.
Sound Factory, c'est bien la preuve que d'autres personnes s'activent sous terre. C'est l'histoire d'un individu. Ni complètement réel, ni complètement irréel. Un homme, une femme, un être de papier, mais rien à voir avec l'origami. De nombreux traits restent imprécis. C'est aussi l'histoire de ces lieux d'indétermination, de ces blancs.
C'est un rêveur inconscient. C'est quelqu'un en fait qui est complètement dans son monde et il croit que le monde en fait fonctionne comme dans les romans, et c'est ce qui est assez amusant de la part du personnage, c'est autour de lui, les autres lui font croire aussi que c'est la vie, quoi. C'est le déni de la réalité du personnage. Il se projette dans un monde qui est un peu triste pour lui, je pense, et donc il essaie de trouver un dérivatif à cette médiocrité, si je puis dire, ou de la vie de tous les jours.
Sa mère était prostituée, qu'elle s'est tenue dans des conditions étranges. Il a souvent fugué, après il a fait le Vietnam, donc il était dans les tunnels au Vietnam. Du coup, c'était assez difficile, il est revenu assez traumatisé, du coup il était assez alcoolique et assez perturbé, et il est rentré dans la police par la suite. Il est vraiment passionné par son métier, pour lui c'est une mission de pouvoir résoudre ses enquêtes.
Pense qu'il est obnubilé par les tueurs en série parce qu'il a trouvé, il a résolu une fois une affaire de tueur en série en Australie. Mais tout le monde dit qu'il crée au loup, mais là il crée au loup, mais c'est réel. Et tous ses supérieurs pensent qu'il a tort une fois de plus.
À 40 à l'heure en moyenne. Je travaille même les jours fériés, imprévisible. Je me construis dans la durée. La vie, c'est le mouvement. Les souterrains, c'était un peu ma deuxième maison. Maintenant, je reste ici. Juste en dessous. Il y en a qui disent que je me suis perdu.
Ses compagnons de cellule, ils ont fait un trou pour communiquer, lui indique l'endroit d'un trésor. Donc il réussit à s'évader en prenant la place de son ami qui est mort. Et puis après, grâce à cette fortune, il va fomenter une vengeance qui est horrible.
Il est habillé comme un jeune d'aujourd'hui, donc un t-shirt, des baskets, un jean normal. Un sac à dos et il part à l'aventure, tout simplement. Il est à New York et il peut faire déplacer des fleuves. Il a un stylo qui se transforme en épée quand il appuie dessus.
C'est un mec qui dort pas beaucoup. Après lui, il parle souvent de sa maison qui est sur les collines à Los Angeles. Et du coup, il voit toute la ville illuminée et il en parle beaucoup de cette vue de sa maison. Où il y a le smog, en fait, à cause de la pollution et de la chaleur. Los Angeles.
La poussière si réelle, flottante, disons, quelque chose de bizarre, il y a un chat qui a disparu, c'est quelqu'un qui a l'air d'être à une sorte de carrefour étrange dans sa vie et avec des événements étonnants autour de lui. Il ne reconnaît pas sa voix et puis au téléphone elle lui parle de sexe et il décide, la première fois en tout cas, il décide de raccrocher. Donc voilà. Et puis voilà, ensuite, apparemment, un tourbillon d'aventure l'attend quand il sort de chez lui.
Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Afin d'éviter un temps d'attente important à l'entrée de la fan zone de la Tour Eiffel, il est fortement recommandé aux spectateurs désirant suivre le match de l'équipe de France.
Jeune garçon, brun, aux yeux bleus. Il a entre 15 et 16 ans. Il est plutôt menu, mais avec des yeux vraiment très bleus, perçants. Ce qui s'appelle Percy, en fait, et c'est le demi-dieu de la mer. Et donc, il contrôle les vagues et la tempête.
Il se lève à 5 heures du matin en plein hiver pour aller faire du surf. Et donc, dans un paysage noir, mais très habité, très heureux pour lui, où il prend un plaisir incroyable sur sa vague et dont la vie s'arrête brutalement, de façon complètement inattendue, au cours du voyage du retour, parce qu'il y a un accident de la route, parce que le chauffeur s'endort. Il avait 19 ans, il était beau, athlétique, tatoué sur le dos. Enfin, il était formidable.
Lorsqu'il y a meurtre ou kidnapping d'une personne, il le signale par la présence d'un bonhomme de neige, là où il y a eu ou le meurtre ou le kidnapping. Il enfreint toutes les règles, et il parle aussi bien en direct que dans sa tête, et ce qu'il dit dans sa tête, il essaie de le communiquer aux autres directement. Il est rongé par l'alcool, et c'est un solitaire, voilà.
Donc pas du tout un soldat, c'est plutôt un musicien. Et quand la guerre démarre, lui sait qu'il est prêt à se sacrifier pour le bien de tous. Voilà.
C'est le frère du sommet, ce qui est la mort. Parce que quand on dort, c'est comme si on est mort. Donc le sommet n'est que le frère de la mort. La mort n'est pas un personnage, mais il meurt à la fin.
Pourquoi il s'est suicidé, mais on imagine qu'il avait tellement de problèmes de drogue, de choses comme ça, qu'on imagine que les personnages aussi qui jouaient étaient des personnages assez difficiles à vivre au quotidien.
Alors s'il n'arrive pas à penser à celle qu'il aime pendant toute sa vie, à chaque fois qu'il est éveillé, et donc il trouve que la vie est une perte de temps. Il me semble que c'est ça. Et en plus, elle ne l'aime pas, la fille qu'il aime.
En état de mort cérébrale. On le voit, on voit le chirurgien qui prescrit les analyses, l'électroencéphalogramme, et qui voit que le cerveau est en train de se noyer, et tandis que le cœur bat, le teint est lisse, il est sous respiration artificielle, et donc ça, il est dans un état où ses parents ont du mal à croire à sa mort, puisqu'il est dans un coma dépassé, mais il n'y a pas de décision à prendre, il est décédé, il faut faire admettre ça aux parents.
Je ne suis pas mélancolique.
L'équipe médicale demande aux parents s'ils acceptent que le corps de leur enfant soit débité pour sauver d'autres vies.
C'est juste un besoin de faire du plein avec du vide.
Cliniquement, il est mort. C'est une redéfinition de la mort.
Je n'arrive pas à voir où tu jettes ton œil. À quoi penses-tu quand je pense que tu tournes les pages ? Un horizon vide. J'échappe à la relativité. Je suis un vivant sans entrailles. Je ne suis qu'un tissu de mots, mais j'aime bien me présenter comme fonctionnaire délégué à la construction.
C'est lui l'auteur ?
Construction de quoi ?
Mais c'est un auteur mort.
Mes plans ne restent souvent qu'à l'état de projet. Je transforme l'accidenté en exemplaire, la contingence en signification, les signes en symboles, le temps en histoire, l'espace en scène, la fragmentation en totalité. Ne me prenez pas pour un magicien, c'est plus un travail de technicien.
Parle de la temporalité afin de repenser l'interprétation de l'expérience humaine juste à travers le temps. C'est une nouvelle tentative d'appréhender une expérience temporelle et humaine.
La réalité prend le pas sur la fiction. La fiction prend le pas sur la réalité.
Bah, il est vivant pour eux.
Ça se passe immédiatement après la mort, en fait. Après sa mort, il parle légèrement des 3 semaines qu'il a passées à l'hôpital avant de mourir des suites de ses blessures. Il décrit notamment les impressions qu'il peut avoir là-haut. Il parle beaucoup des couleurs, il parle beaucoup des sons. Et il dit que ce sont des choses qu'on ne peut malheureusement pas comprendre ici, mais qui sont d'une grande beauté et qui sont... sont vraiment magnifiques.
On arrive à se confondre. Quelquefois, ils m'oublient, jusqu'à devenir étrangers à eux-mêmes. Ils disent elle, elle, elle. Ils disent il. J'ai toujours su qui il était. J'ai toujours su qui elle était. Il bouge. Il vit. Il vive. C'est bien la preuve que d'autres personnes s'activent sous terre.
Il peut se déplacer, il va très souvent les visiter et il entend ce qu'ils disent, de quoi ils discutent, etc., etc. Donc en fait il explique qu'il les voit, il est présent avec eux et qu'eux ne peuvent pas le voir. Que lui peut par contre les sentir, il peut les aider, il utilise très souvent cette phrase « je suis avec vous, je suis en vous ». Parce qu'il écrit à travers la main de sa sœur. C'est sa sœur qui écrit ce que lui dicte, donc sa sœur doit l'entendre.
Quand je les entends penser, je sais qu'ils parlent. J'ai l'impression de les connaître. Il y a mobilité, à l'horizontale ou même en diagonale. Rapidité, comme une recherche fugace mais attentionnée.
C'est un psychiatre qui l'a fait parler et qui découvre les 3 personnalités qu'elle a cachées. Enfin, 2 et une où elle est elle-même.
D'ailleurs, Je n'ai pas de nom.
Il les pousse à avancer sur leur chemin spirituel.
Je n'ai jamais su qui elle était.
Ça passe de l'une à l'autre sans qu'on s'en aperçoive trop.
C'est quelqu'un qui a été enlevé quand elle était petite, a vécu 2 ans, qu'on a retrouvé, qui en fin de compte, comme elle a été agressée, etc. En fin de compte, elle n'a pas été soignée à sa sortie et du coup, voilà, pour se protéger, elle a fait 3 personnages différents.
Et puis à chaque fois, ils disent elle, elle, elle. Alors elle, mais des fois, on change de elle, on ne s'en est pas rendu compte.
C'est une jeune fille très sage, des années 50.
C'est assez peu précis, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est exactement où c'est au Brésil. Voilà, ça reste flou, il y a une espèce d'unité de lieu. Une petite bourgade avec, ils habitent une maison, puis c'est les voisins au-dessus, à côté.
C'est une jeune fille qui part de chez elle, mais je ne sais pas encore ce qui va se passer.
En fait, il y a cette annonce qui arrive comme ça et qui est très bien payée pour un travail pour lequel aucune qualification particulière est demandée. Et du coup, elle va se retrouver dans ce travail pour lequel elle n'a aucune expérience, à justement tenir compagnie à cet homme qui a eu un accident à la suite duquel il est devenu tétraplégique.
C'est une personne donc à la peau pâle, avec des traits assez spécifiques, un peu slaves, disons, de l'Est. Mais surtout donc avec les cheveux foncés, les yeux foncés, des yeux très noirs et très profonds. Et ça, on le comprend en même temps, cette histoire qui est un peu difficile, donc le communisme, et comment elle arrive à s'affranchir de cet homme, et à la fois qu'elle aime passionnément, mais qu'elle doit quitter parce que voilà, pour à cause des trahisons.
Elle va et vient entre les villages, elle essaie de trouver une épicerie dans laquelle il y a encore de quoi manger, et c'est très difficile évidemment parce que tout le monde est parti et toutes les villes sont en ruine, c'est assez terrible.
Il y a une voisine qui a 3 chiens, donc elle décrit qu'elle vit avec ses 3 chiens qui détruisent tout, mais c'est à un point qui est un peu étonnant, quoi. C'est-à-dire qu'il casse tout dans sa maison, mais elle a l'air très contente, donc voilà, c'est un peu poussé, c'est de l'humour poussé loin, les chiens qui détruisent les jardins des voisins, qui terrorisent tout le monde.
Elle est partie un certain temps, et puis elle est revenue. Elle n'a pas pu quitter son mari. Et le quotidien auquel elle était habituée.
Je rêve pourtant de gagner en autonomie, sans récit tout tracé, sans besoin d'être activé. Voyager seul, découvrir le monde, changer de vie. S'envoler de toi en toi, mais de moi en moi.
Il y en a qui habitent en Amérique, il y en a qui habitent en France. J'ai pas vu la fin, mais j'imagine que tout se finira bien, on va dire.
Apparemment, sa sœur, une de ses sœurs va mourir par la suite. Et là, les choses vont encore plus se détailler. Voilà. Voilà ce qu'on m'a dit.
C'est très simple, c'est... elle meurt, point. Elle, c'est une autre. Mais voilà, le temps de réaliser que c'est une autre, on comprend pas tout de suite.
Et du coup, je trouve que c'est une belle leçon de vie, on va dire.
Plus de bonhomme de neige, plus de télépathie, plus de rêveur inconscient. J'étais une jeune fille très sage. J'étais un inspecteur de police. Je suis maintenant partout, une entité englobante. Des taches noires qui planent au-dessus d'un lit. Une silhouette qui marche seule la nuit.
Sound Factory. C'est bien la preuve que d'autres personnes s'activent sous terre. Voix off, Pierre Hilpert. Coordination, Inès De Bruyne et Irène Omelianenko. Mixage, Alain Joubert. Réalisation, Nathalie Battus. Une proposition de Paul Heinz.
C'est juste la fin d'un exercice, je dirais, de magie souterraine radiophonique qu'on vient d'entendre, Paul Heinz. Est-ce que ce que vous avez pu réaliser ressemble au projet que vous avez pu développer ? Alors, développer ou pas, je ne sais pas si vous en avez parlé au Frénois avec votre professeur Éric Prigent ou pas.
Non, je n'ai pas pu en parler. Je l'ai écrit par moi-même. On nous a diffusé à tous au Frénois l'appel à projet. Et ensuite, j'ai décidé d'écrire ce projet que je voulais originellement le faire en installation plus vidéo. Mais je me suis dit qu'il serait intéressant, justement, comme j'étais sur une recherche plus sonore, de le faire en son. Et en fait, c'est un peu dans la continuité de la démarche que j'ai pu faire évoluer au Frénois, qui tourne un petit peu autour de la fiction et aussi sur la manière dont les différentes couches de fiction cohabitent. Et là, c'était plutôt aller dans les souterrains de Paris, dans le métro, pour m'intéresser à l'intimité un petit peu des gens, ce qu'ils lisent, où voyagent-ils lorsqu'ils plongent leur nez dans leurs livres, et avec qui aussi, surtout. Parce que là, cette création tourne particulièrement autour des personnages de romans.
Alors, est-ce que l'expérience, telle que vous l'avez imaginée, qui était très précise dans le projet que vous nous avez envoyé, c'est réellement incarné ou est-ce qu'il y a eu un peu d'irruption d'autre chose au moment du tournage avec Nathalie Battus?
Ce qui m'a intéressé là, c'est d'organiser aussi des situations pour faire émerger des choses que je n'attendais pas et de composer avec. Originellement, je m'étais dit que lorsque j'allais interviewer ces lecteurs du métro, mon intention était de m'entretenir sur le sentiment de la lecture, sur les transports, et de prendre à chaque fois en photo ce que j'ai fait, une double page, la double page qu'ils ont en face d'eux au moment T où je les rencontre. Et à partir de ces doubles pages, j'aurais voulu composer une fiction à un ou plusieurs comédiens.
Cadavre exquis, un peu.
Une espèce de cadavre exquis, mais qui serait recomposé à partir de textes. Or là, ça a évolué d'une autre manière, qui était en fait plus... Ce qui ressortait le plus, c'était la manière dont il parlait de il, de elle, des personnes, des personnes qu'ils étaient en train de lire, des personnages de romans et des lieux de la fiction. Donc comment la fiction de la vie quotidienne et de la fiction sociale rejoint la fiction imaginaire, les imaginaires de différents auteurs, et comment ces deux couches peuvent se mêler et créer une espèce de trouble comme ça.
Avant que nous nous quittions, je vais vous demander de vous livrer à un petit exercice, c'est de nous présenter la production qui suit, puisque avec Sound Factory, finalement, on a deux œuvres qui sont proposées. Mmh. Alors, je vous donne le texte.
Et maintenant, c'est une proposition d'une élève de Pascal Brocolicchi à la Villa Arson, Marie Limoujou, qui, émue par l'ouverture des PMU City, ses cabines blanches et vertes posées au milieu des villes, équipées du nécessaire pour jouer aux courses et autres paris, mais où les gens ne se parlent plus. Marie Limoujou a voulu fixer le flux des PMU à l'ancienne avant qu'ils ne se tarissent.
Ça te remonte bien. Hein.
T'as jamais vu la couleur de mon bidou ?
3 à 4 pour moi, c'est
même pareil. Est-ce que tu veux des glaçounes ?
3 à 4, bon. Alors 4-3, il y en a que ça arrange, mais moins.
Non, mais il y a 2850 mètres.
Ouais, ouais. T'as encore largement le temps de tout perdre. Le 7 à...
Oui, bah, dis donc, on est au début de la course. Ne t'enflamme ouais. pas, s'il te plaît.
Ah, là, là.
Il va le prendre dans l'ordre, il paiera 2,40€.
7-7.
Hier soir, il passait à la télé, un mec qui était interviewé, et au moment où les journalistes étaient là, le gars, il gratte, il regagne devant eux. Et oui, pourquoi que ça m'arriverait pas à moi? 130 000 euros. Moi, au pire, je les prends. C'est mal barré, moi.
Généralement, le 7, il est là pour faire le billet.
Ouais. Ouais, vite.
Il a fait deux tours extérieurs, là maintenant faut qu'il fait tout à la corde. Il fait toute la piste ou pas?
Ah mais il fait toute la piste. Hein.
Donc il a au moins trois tours à faire là.
Ah oh là, lui, là, hein il... oui.
Parce que regarde, hein
mais...
un, deux, deux, c'est tout.
Il pense.
Tu crois que deux, il est venu jusque là?
À moins qu'il en ait fait trois, mais attends. Ah ouais, mais il a passé la herse. Un, deux, ah peut-être bien qu'il en a fait trois. Possible, trois.
Il en fait six
en même temps. Donc, s'il rattaque assez tôt ce matin, il aura le temps d'en faire un avant midi. Et... Salut.
Salut les gars.
Le cheval 51 a disparu. Par Marie Limoujou et Thomas Duterre.
Ensuite, on retrouve avec des infos qui concernent, je crois, le numéro 7, le Peiro Alto.
Oui, absolument, Christian. Un cheval qui, dans sa catégorie, m'a dit Harmonie Scanen, qui a fait un bon hit et qui, malgré ses petits soucis pour finir la dernière fois, faisait une bonne course selon son entraîneur. Il me dit le cheval est bien et en tête, il a sûrement une belle carte à jouer. C'est un des trublions possibles au premier poteau, Christian.
Ouais, une cote de méfiance, une cote qui avoisine les 15 euros. On peut penser que c'est quand même une cote de confiance, car au deuxième poteau, on a des chevaux qui me semblent détenir une belle chance technique. Hein, c'est le cas de Baron Wild.
J'avais tous les noms des chevaux, leur âge des chevaux, leur couleur, le nom des propriétaires, le nom des entraîneurs, leur gain, leur musique. Donc la musique, c'est les places qu'ils ont déjà qu'ils ont déjà couru. Tout est bien détaillé, quoi. Bon, je vais vous donner le favori aujourd'hui. Le favori, ça sera le 15. C'est Aubryon du Gers. Il va être drivé par Jean-Michel Bazir.
C'est nerveux, Bazir. Ouais. Un petit coup de rêve, mais ben, le gars, il est parti au galop. Il est en terre. Salut.
Non. Si j'ai assez de sous, attends, je vais te dire, je sais pas. Il n'y avait pas assez.
Dommage.
Il y a... Comme indication, pour jouer, on peut se baser, par exemple, sur les chevaux arrivés en sixième place. Un cheval qui est arrivé sixième a beaucoup de chances de rentrer dans la course d'après. C'est assez particulier. Est-ce qu'il y en a un aujourd'hui ? Eh bien, non. Donc déjà, c'est un élément en moins.
C'est tellement difficile que dans les parcours que... Et pour le moment, on n'a encore rien vu. Il a quand même terminé 3e, 6e par contre, derrière Au Fil de l'Or, qui a terminé 3e ce jour-là. Je ne vous dis pas Au Fil de l'Or, dans cette course-ci, il gagne 50 mètres. Hein. Donc méfiez-vous bien de ce cadence même pour une énorme surprise, mais aucune garantie, évidemment. Il est disqualifié 9 fois sur 10. Voilà, ben, on va faire un petit choix. Moi, je pense que Christophe n'est pas venu ici pour...
Oui, pour se balader. Ça, c'est
pour manger du hareng. Pour faire une balade, peut-être bien, oui. Mais pas uniquement pour aller en ville.
Là, on peut voir une arrivée. Le premier, il a 5,6. L'autre arrivée 14. Ça, c'est une arrivée un petit peu différente. Une arrivée à 6,5. Une arrivée à 2,9. Ça veut dire que c'est tout le temps un favori qui est en tête. C'est les caractéristiques de l'athlète. Et après, il y a des surprises. Maintenant, trouver le bon tocard. Là, on a des cotes à 31, 42, 35. Ça, c'est un bon quintet. En voyant qu'ils sont déférés. À partir de ce moment-là, on peut voir qu'on peut choper des tocards déférés qui ont des grosses cotes, parce qu'ils ont des chances d'être à l'arrivée. Quand on enlève les fers, le cheval, elle a une meilleure assise. Il fait mieux respirer toutes les artères qu'il a, qui lui oxygènent le cœur. Et donc, le cheval est beaucoup plus performant. Et un cheval ferré, il est restreint. Et donc, quand il court, il n'a pas les mêmes caractéristiques d'afflux sanguin qui rigle le cœur pour la vélocité. Donc, c'est des petites combines de manière à essayer de trouver une combinaison valable.
Et vous n'allez jamais sur les champs de course ?
Si. Je suis même allé au champ de course de New York City, qui s'appelle Belmonte. Et il y a beaucoup plus d'ambiance qu'en France, parce que là, ça gueule à fond. C'est assez rigolo.
They're off in the Belmont Stakes. Destin has taken the lead in the Belmont Stakes. Stradivari is there. Governor Malibu couldn't get through on the inside. He is in traffic. Exaggerator. Here comes Lonnie on the far outside, and Creator is coming too. It is Destin in front. Creator, Lonnie on the outside. Destin and Creator, these two come down to the line together. Too close to goal. It was Creator and Destin right on the wire, and Iran Ortiz raised his whip in victory, but it is very close in the Belmont Stakes.
Allez, c'est bon, vous pouvez rentrer. Oh oui, il va s'arrêter. Qu'est-ce qu'il y en a un autre ou pas?
Ouais. Le cheval que vous voyez, le cheval alezan avec une liste blanche, c'est un cheval qui s'appelle Silencile, qui a été un vieux cheval de crosse, qui a maintenant 8 ans, qui va courir lundi le grand cross ici. On n'a pas une première chance, mais on est sur place. Le cheval connaît le parcours. Le petit cheval gris, à mon avis, c'est un cheval qui court, lui, court dimanche une course de haie. Vous voyez, il a que 5 ans, ce cheval-là. Ça devrait pas mal se passer. Il a couru très proprement l'autre jour pour ses premiers pas sur cet hippodrome. Ils sont ensemble, vous voyez, c'est les guerriers, quoi, à la base d'un cheval. Hein. Les chevaux de course, il faut qu'ils aient envie de se battre. Et donc, on entretient cette dynamique entre, vous voyez, cette jument-là, vous voyez, elle aime bien être devant. Et comme vous la voyez là, ben, en course, c'est pareil, c'est une jument qui aime bien être devant. Il y a des petits détails qu'on remarque comme ça. Et regardez, quand vous la voyez marcher, ben, elle aime bien être devant, quoi, elle aime pas être derrière. Voilà. Et le jockey, là, que vous voyez qui est dessus, ben, c'est mon jockey. Qui a fini 3 fois tête de liste à Pompadour, voilà, qui a un peu d'expérience, qui a une 30aine d'années.
Avec un mot remplacé,
tu vois, histoire
de
bien. Nous, c'est ce qu'on fait, mais on met pas des outils, on met juste un
demi-ton. Ah, il faut pas faire les soins.
Pour la boutique,
je peux pas faire ça, il y a pas de ce que je disais. Alors. Je vais parler, avant de parler, parce que quand il commence, il sait plus ça.
Tu téléphones au PMU de Beaulieu, tu dis que tu viens de ma part, tu dis de la part de Vincent, et tu demandes s'il y a Rico et le brocanteur qui sont là pour le quintet. Et s'ils sont là, tu y vas, parce que là tu vas avoir un bon interview.
Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, Cricri.
On fait le 7.
On fait le 7 dans la course du quintet?
Ouais.
Allez, c'est parti. Ben oui, parce que hier le 7, il est arrivé à 100 et des bananes. Voilà.
Il est arrivé à 100 et des bananes.
Ah, hier. Il était beau le 7, hein. Mais bon, fallait y penser. 110 contre 1.
Et ben voilà.
Improbable.
Voilà,
complètement improbable.
Simple,
5 euros. Ouais.
C'est comme ça qu'il va gagner.
Bon, allez.
Des bibis.
À toute heure.
Des bibis, mes kiki. Un petit café, c'est ça, les jeunes.
Ah, ah, ah. Qu'est-ce que tu bois, en fait?
Eh bien, j'attends que tu me payes quelque chose.
Mais, ah ben non,
vous n'allez pas être déçus.
Il y a 2 heures.
Magui.
Allez, amène le manche. Au pied des coteaux, j'ai mangé un peu de saucisson. J'ai bu 4 canons de vin.
Pas plus?
Non. ça me revient. j'ai fait partie de l'orchestre, comment il s'appelait? Pas Ségurel, l'autre là.
Bercherin.
Non. Oh, bah.
Bolliger.
Parce que Bercherin n'était pas né.
Bolliger.
Monnedier.
Ah, monsieur
Robert. Merci, bonne journée.
Robert Monnedier, c'était pas un chanteur, c'était un accordéoniste qui faisait les chansons, les musiques pour Ségurel, mais qui jouait 2 fois mieux que Ségurel, et qui n'était pas connu comme Ségurel. Et le pauvre garçon, il a fini Paris, je sais pas. Comme moi, quoi. Il a fini, bon, son orchestre, c'est... Il avait un très très bon orchestre. Mais à l'époque, c'était des orchestres assez complets. Musette. Mais il n'y avait pas que du musette. Il y avait du piano, il y avait du violon, il y avait de tout.
Partout, ils sont descendus là-bas.
Il y en avait 1500.
De Beaulieu ?
Non. Je ne suis pas de Beaulieu, moi. Je suis de Forges, Corrèze. C'est l'autre versant de la colline. Vous savez, la colline qui s'effondre. Alors, ça s'effondre tellement qu'ils ont fait des cascades. Et bien là, Voilà. Je suis né à Forges. Non, Beaulieu, ma femme est d'ici. Et puis, vous savez, les Corréziens, on ne s'échappe pas beaucoup. Hein. On s'échappe pendant 20 ans, 30 ans. Et puis...
Et on revient au pays.
Et on revient au pays.
Les chevaux s'approchent de la clarté.
On les sent, les chevaux, quand ils ont besoin de respirer, quand ils veulent accélérer, ben, faut pas forcément les empêcher d'avancer. C'est tous des petits détails, après ça dépend du rythme de la course aussi. Aucune course se ressemble. Il y a des chevaux, des fois ils partent vite, d'autres fois ils partent doucement. Des fois c'est une jument qui est allante, je vous dis cette jument là en l'occurrence, c'est une jument qui aime bien être devant, mais à des fois, bon ben il n'y est pas. Donc c'est pas une obligation de la forcer à aller devant. Si aujourd'hui, bon, comme je vous dis, elle est peut-être un peu moins bien, ou ça va justement un peu trop vite pour elle, par quel cas elle se retrouve dans le paquet avec ses copains, et puis après quand les autres ralentissent peut-être un peu parce qu'ils ont été trop vite, ben elle en l'occurrence prend la tête, et puis vous voyez ce que je veux dire. On a beau expliquer, quand on va aux courses comme ça, on a notre idée, on voudrait que la course se déroule comme ça, alors des fois ça se passe comme on l'avait prévu, et des fois, et malheureusement, il y a des aléas, vous avez une chute, hein, ça peut très bien arriver en obstacle, hein. Il y a un cheval qui est devant, puis qui tombe et qui vous perturbe, alors soit, malheureusement, il vous fait tomber vous aussi, des fois, ou après, ça se passe pas toujours, des fois, comme on veut, mais bon, c'est un métier intéressant quand même.
Ici, derrière, il y avait des pinces, là, on poinçonnait des tickets, ça faisait des copeaux partout, et on pouvait voir que le PMU fonctionnait. Il y avait des copeaux de bois, là, je ne sais pas comment te dire, il y avait l'emporte-pièce sur le ticket, mettait qu'il y avait des bouts de papier partout, et on voyait que le PMU marchait. Et c'était traditionnel, c'était que le dimanche. Maintenant, il y a des courses tous les jours. Et toute la journée, rien à voir avec ce qui était auparavant, un truc beaucoup plus convivial que le dimanche. Tiens.
Ça va, mec ?
Comment vas-tu, mon petit ?
Bonjour. Pour l'instant, bonjour. Avec en troisième position, Astéa Gavro qui patiente à la corde. Airport qui va tenter de créer une énorme surprise. Boeing du Bocage qui vient quant à lui 5 ou 6e. Ursa Major qui va venir également avec Vanille du Dollar, ligne d'arrivée. Aubryon du Gers, Val Royal qui lutte tous les deux pour la victoire devant Airport. Boeing du Bocage qui est lancé. Vignal Arrivé également qui refait du terrain. Avec également un Diamant d'Amour, le numéro 12 qui surgit au centre. Avec Aubryon du Gers qui a nettement l'avantage, mais Boeing du Bocage refait du terrain. Vignal Arrivé qui vient également. Un Diamant d'Amour qui n'a pas l'ouverture. Topaz Jeff qui va terminer vite. Avec Ursa Major, Aubryon du Gers qui a course gagnée aux abords du poteau. Le 15 Aubryon du Gers l'emporte, c'était le grand favori. Là c'est deuxième Boeing du Bocage. 7, Vignal Arabel, peut-être au 3ème devant le 12.
Les gens qui sont passionnés par les chevaux, s'ils ont un hippodrome à proximité, ils iront. Ceux qui n'en ont pas, non, on reste là. Il y a les joueurs du dimanche, comme on dit, et vraiment les passionnés. Moi, je ne vais jamais sur les hippodromes, sauf si je suis en vacances et que j'habite à côté. Mais autrefois, j'y allais un petit peu. Mais vraiment pendant l'été, c'était une détente, quoi. C'est pas, disons, c'est pas comme certains passionnés ou vraiment des joueurs très accros qui se rendent sur place tous les dimanches pour parier leur chemise. Hein, non. Et le soir, ramasser les tickets comme ça par terre pour voir s'ils n'en ont pas par terre un ticket gagnant. Non, nous, ici en province, je vais vous dire peut-être un chiffre qui n'est pas trop loin de la vérité. Sur 1000 joueurs dans la région, il n'y en a peut-être que 10 ou 15 qui vont sur les hippodromes et qui sont en relation directe avec ou des entraîneurs ou dans leur famille des gens qui sont en relation comme éleveurs de chevaux ou qui ont des amis qui sont drivers ou jockeys. C'est des gens qui tournent dans le milieu, qui sont vraiment impliqués, qui ont des tuyaux parce qu'ils suivent le cheval, ils vont le voir à l'entraînement, voir quand il est en forme, etc. Ces gens-là se déplacent. Mais le joueur comme moi qui joue son petit tiercé de temps en temps, parce qu'ici il y a des gens qui viennent et qui feront des kilomètres parce qu'il y a un PMU qui est fermé, etc. Puis après il y a le gars qui se dit bon bah c'est fermé, on verra ça demain.
Bah nous, on est en vacances ici, on vient tous les ans. Et les seules fois où on joue au tiercé, c'est en vacances, on ne joue pas le reste de l'année. D'accord. C'est le petit plaisir des vacances, le midi. Voilà. Il y a 48 ans, je viens.
Et donc le PMU de Beaulieu, pendant les vacances, vous le fréquentez ?
Tous les jours.
Ensuite, il a tout de suite été à Vincennes, hein, Georges, quand même, terminant cinquième. Ouais. Et puis une série une mauvaise passe, hein, on va dire, des coupures, des problèmes de santé qui font qu'il se retrouve ici aujourd'hui, sans doute en retard de gain. Maintenant, peut-être pas pour aujourd'hui, mais à suivre.
Oui, voilà, il a pu rejouer en compétition.
Bon, il est arrivé mon cheval au moins.
Pourquoi t'as un cheval ? Hein ? Là, on peut voir la disqualifiée, 1, 11, 2, 8, 9. Ça veut dire que c'est des chevaux qui se sont mis à galoper, qui n'ont pas suivi les trots. Et à partir de ce moment-là, ils sont éliminés, ils n'ont pas le droit à l'accès.
Ça a l'air d'être...
Ouais, donc là, ça change tout.
Voilà, donc il faut que ton cheval soit bien maîtrisé, sinon il part à la faute et donc il est éliminé. Et là, c'est une course, on regarde 4.9, 2.8 et 10, ça veut dire que c'est des favos qui arrivent devant, donc ce n'est pas des sommes énormes. Par contre, il est possible de trouver des chevaux qui rentrent à 75 contre 1. Il est possible de trouver des... Ça veut dire que pour 1 euro, tu gagnes 75 euros. Il y a des chevaux qui rentrent à des cotes qui sont inouïes. Maintenant, il faut suivre les drivers, il faut suivre les chevaux. Regarder la musique, essayer de comprendre lequel va venir à grosse cote dans cette course, si c'est possible ou pas. Par exemple, il y a un exemple, c'est l'hippodrome de la Teste. Il n'y a jamais de favori qui arrive. C'est un hippodrome qui est compliqué parce que les pistes sont différentes. Ce n'est pas des pistes qui sont identiques en France entière. Donc il y a des pistes avec des montées, il y a des pistes qui sont fatigantes. Et donc, il y a des hippodromes qui sont beaucoup plus compliqués que les autres pour les chevaux. Sans parler de Cagnes-sur-Mer et de Marseille-Borély, qui sont des hippodromes où ça triche. On fait rentrer des chevaux improbables parce qu'il y a des plans d'argent, parce qu'il y a toujours de l'argent. Quand il y a de l'argent, il y a de la triche. Et Marseille et Cagnes-sur-Mer sont particulièrement différents des autres hippodromes. Pompadour, Vichy, Aurillac, ce sera beaucoup plus calme. Il y aura plus de chances d'avoir un favori qui arrive que quand on est dans le sud de la France. Peut-être que je me trompe.
C'est la première qui est partie.
Ah bon.
Bonjour.
Bonjour. Merci bien. Bon, ça c'est la deuxième, c'est parfait.
C'est la deuxième, ça.
À mon grand plaisir, ouais.
Tout à fait.
Merci.
Merci bien.
Merci.
Allô.
Ah bébé.
Allô.
Et toi?
Tu dis tiens.
Et ça fait un mois et demi, c'est bien.
Ah ouais?
Ouais.
Ah ben je suis venu, oui, mais je suis venu, mais je suis juste arrivé.
Vas-y
là.
Ah bon?
Parce que je suis venu au mois de juillet. Je suis venu quelques jours. Ah ouais. Moi je suis venu quelques jours. Ah ouais.
C'est
un peu.
Entre Beaulieu et Argentan, on voit tout de suite la différence. Hein. On n'est pas à Ussel ici. Hein, donc.
Il est originaire de là-bas. Et il ne quitterait pas Ussel, lui. Hein. Ah non, mais lui, il ne faut pas lui parler de, du sud Corrèze, du Lot. Lui, il est bien que là-haut. Il aime le froid du sel, il aime tout. Hein. Ah, ben après, c'est, ouais, Haute Corrèze, c'est une autre mentalité. Je pense que moi, Haute Corrèze, je ne m'y serais pas fait, par contre. Autant j'ai pu me faire ici, bon, entre Brive-Tulle, ici, dans ces coins, Haute Corrèze, je n'aurais pas pu. D'ailleurs, j'ai même du mal à aller y rouler. Des fois, Christian veut m'y amener, j'ai du mal. C'est marrant, hein, je ne m'y sens pas bien.
Alors que moi, j'adore. Ben ouais, j'adore les monnaies et tout ça. Moi,
je dis pas que c'est pas beau, hein. Mais je m'y sens pas bien.
Lui, il me fait bouffer du caillou, alors il va me dormir.
J'adore ça, moi. Genre, quand c'est sec, cigale, le cosse, ben, les pierres du Lot. On commence un peu à retrouver ici. Après, ouais, la Haute-Corrèze.
Les cigales en Corrèze, on les entend qu'ici. Hein.
Ouais.
Ici, ben, c'est le dernier.
Chez moi, à Corny, on les entend pas, la gare. Non. Corny, et même à Brive. Hein.
Le dernier coin où on les entend, c'est Tudeuil.
Il y a après, plus limite. Hein. Ouais. Plus d'arnaque. Hein.
Ouais, plus d'arnaque. En principe, je regarde sur le journal. On a regardé au café d'en haut. Et. Aujourd'hui, c'est du pif, je vais jouer le 7. Voilà. Mais, comme on dit, je ne gagne pas gros, parce que, vous voyez, je joue 5 euros. Bon, si, admettons qu'il soit là, il va me faire 2,50 ou 3 euros. Alors, multiplié par 5, ça fait 15 euros. Non, mais moi, je ne cherche pas, comme il y en a, à toucher le pactole, hein. Moi, c'est doubler la mise. Voilà. C'est ce que je fais.
Et vous êtes d'ici ?
Oui.
Vous êtes toujours resté dans la région ?
Ah, mais moi, je suis né en Corrèze. Alors, je suis un Corrézien. Eh ouais. Ah non, mais moi, je suis du pays. C'est pas mal. Hein ?
Moi, je suis pas d'ici. Hein.
Non, mais bon. C'est pas mal.
Qu'est-ce que vous trouvez de chouette en Corrèze ?
Pour moi, pas grand-chose. Hein. Non, mais c'est vrai.
Pourquoi
hein.
Vous restez ?
Pour aller où ? Pour aller où ? Hein ? partir où ? Il faut pouvoir y aller. Hein.
Le cheval 51 a disparu. Par Marie Moujou et Thomas Duterre.
Allez, let's go.
Mixage, Manuel Couturier. Un remerciement tout particulier au studio son de la Villa Arson, à Pascal Brocolicchi et Valérie Moratti. Merci au bar PMU d'Argentat, de Beaulieu-sur-Dordogne et à l'hippodrome de Pompadour. Avec Fabien, Vincent, Guy, la patronne, Julien, le brocanteur et tous les autres. Coordination, Inès De Bruyne et Irène Omelianenko.
Mercredi prochain, à 23h, nous serons à Tanger avec ceux qui regardent l'autre rive. Une création on-air de Laurent Beaumati et Véronique Lamandour. Jeudi, peinture, avec À la recherche de Yann Vos, par Christian Rosset et Gaël Gillon. Demain, rendez-vous avec Hélène Azéra, et maintenant, les nuits de France Culture avec Philippe Garbi.